Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous écoutez Les Nouvelles Ondes, la nouvelle émission d'actualité politique enregistrée à Sciences Po, en partenariat avec le journal des étudiants, La Péniche et PFM, Radio Arageoise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Maxime et Rémi. Bonjour.
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 Je retrouve également Lucas qui est à la technique et qui nous fera sa chronique. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Le 8 octobre 2018, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous le nom de GIEC, a publié son rapport très attendu sur les conséquences d'une augmentation des températures au-delà de 1,5 degré Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle. Commandé en 2015 par les gouvernements lors de la COP21, ce rapport spécial est le résultat d'une collaboration internationale de 3 ans. Retenons quelques chiffres. Le rapport du GIEC, c'est 91 auteurs principaux, 44 nationalités, plus de 6000 références et 42 000 observations formulées par les experts et les gouvernements. Un travail titanesque. Un mois et demi après sa sortie, ce rapport va servir de base aux travaux de la COP24 qui va débuter le 3 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Mais le monde va dans le mur, et vite. Ces termes sont ceux de Laurent Fabius, l'actuel président du Conseil constitutionnel, dans une récente tribune au Journal du Dimanche. Laurent Fabius, l'ancien président de la COP21. Souvenez-vous, cette COP21 qui suscita l'espoir au lendemain de la signature d'un accord historique le 12 décembre 2015. Entre 195 pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés. Néanmoins, selon un autre rapport présenté par l'OCDE, l'ONU Environnement et le groupe de la Banque mondiale, on apprend que sur les 195 États signataires de l'accord de Paris, seulement 9 ont soumis aux Nations Unies des programmes concrets pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 3 ans plus tard, la situation ne fait qu'empirer. Vagues de chaleur, inondations répétées, multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, élévation du niveau des océans, migration climatique à l'avenir, fonte des glaces, disparition de certaines espèces animales et végétales et de leurs écosystèmes. Autant de conséquences annoncées qui, pour certaines, sont déjà visibles. Et pourtant, c'est l'un des éléments clés présentés dans le rapport du GIEC. Un demi-degré de plus ou de moins peut tout changer dans l'avenir de l'humanité. Mais finalement, le rapport du GIEC nous indique que si la situation est urgente, il n'est pas trop tard pour réagir. Des solutions existent, encore faut-il que les États ne soient pas laxistes. Pour faire le point sur ces enjeux, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes paléoclimatologue. Vous avez obtenu en 2013 le prix Irène Joliot-Curie en tant que femme scientifique de l'année. Vous êtes la coprésidente du groupe de travail numéro 1 sur la physique du climat du GIEC. Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour compléter votre analyse, nous avons également le plaisir de recevoir un autre scientifique français, et pas des moindres. Biologiste, professeur d'océanographie, ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015, membre de la Commission française de l'UNESCO, conseiller scientifique auprès du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie avec Ségolène Royal. Notre invité fait plus de 80 conférences par an aux quatre coins du monde, mais aujourd'hui, il est bien avec nous à Paris, dans le studio à Sciences Po. Professeur Gilles Boeuf, bienvenue.
Bonjour.
Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, une légère présentation de l'émission qui va se composer en deux parties. Une première réservée au bilan et à la compréhension de la situation climatique. Et enfin, une partie consacrée aux perspectives et aux réponses présentées par le rapport du GIEC. Sans oublier notre traditionnelle pause engagée. Mais avant cela, rapidement, on a envie d'en savoir un peu plus sur nos invités. Pour briser la glace, c'est la chronique de Lucas Rodriguez.
Bonjour Valérie Masson-Delmotte, bonjour Gilles Boeuf. Dans cette chronique, je vous soumettrai deux choix. Le but est d'en retenir qu'une seule. Par exemple, petit tour de chauffe, si je vous dis saucisson ou brocoli, vous me répondez ?
Brocoli.
Et vous Gilles Boeuf ?
Oui, certainement aussi, oui.
Très bien, je vous propose de répondre chacun votre tour, et nous allons commencer avec vous, Madame Valérie Masson-Delmotte. L'écologie, c'est plutôt droite ou gauche ?
Ni l'un ni l'autre.
Gilles Boeuf, plutôt Trump ou Macron ?
Bon, à comparer les deux, quand même nettement Macron par rapport à Trump.
Très bien. Gilets jaunes ou bonnet rouge ?
Sympathie avec les gilets jaunes hein, sur la notion de transition juste socialement.
Voiture électrique ou gros 4x4 ?
Ni l'un ni l'autre. Et moi, je suis pas du tout gilet jaune, hein, pas plus que bonnet rouge. C'est la même style de démarche.
Climato-sceptique ou climato-optimiste ?
Lucide et responsable.
Activisme politique ou manifestation citoyenne ?
Oui, je dirais manifestation citoyenne, oui.
Très bien. Maintenant, COP21 ou COP du monde ?
Le jour où on verra les footballeurs s'engager pour l'environnement, on aura marqué une grande étape.
Nicolas Hulot ou François de Rugy?
Clairement Nicolas Hulot.
L'huile de palme ou l'huile de tournesol?
Tournesol.
Monsanto ou ma santé?
Ah ben ma santé, c'est pas difficile celle-là.
Maintenant, le glyphosate, vous êtes pour ou vous êtes plutôt contre?
Moi je suis pour réinventer un modèle agricole qui prenne en compte tous les enjeux en même temps. Les enjeux du prix de l'agriculture, les enjeux de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de l'air et du climat.
Eva Jolie ou Noël ma mère?
Ni l'un ni l'autre.
Émission de CO2 ou de Cyril Hanouna?
Le net zéro émission dans les deux cas.
Et enfin, dernière question, croissance ou décroissance?
Ni l'un ni l'autre, je n'aime pas le terme de décroissance. La croissance actuelle, elle est absolument impossible. Mais j'aime pas le terme de décroissance. Qu'est-ce qu'on appelle croissance?
Merci Lucas pour cette chronique.
Merci à vous deux.
On enchaîne tout de suite avec la première partie de notre interview.
Bonjour Valérie Masson-Delmotte et bonjour Gilles Boeuf. Première question pour vous, au regard de vos spécialités respectives, quel constat faites-vous de l'état du monde aujourd'hui en 2018 en quelques mots? Madame Masson-Delmotte, vous pouvez commencer.
Le premier constat, c'est celui d'une vulnérabilité par rapport à la variabilité du climat aujourd'hui. C'est celui d'un réchauffement climatique qui se poursuit, donc 1 degré par rapport à la fin du 19e siècle, entièrement dû aux activités humaines. Ça se poursuit au rythme de 0,2 degré tous les 10 ans. On voit une intensification des événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou les pluies torrentielles. Donc le changement climatique, ça affecte déjà les gens partout, leur façon de vivre, les écosystèmes. Et puis sur la cause du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, des nouveaux records pour l'émission du dioxyde de carbone, méthane. Donc on est loin d'avoir agi sur la cause du problème.
Gilles Boeuf, sur la biodiversité peut-être?
Un effondrement. Et il faut souvent dire aux gens que ce ne sont pas forcément des extinctions. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes, de plantes, d'animaux, de champignons, même du micro-organisme. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et c'est l'accélération. Moi, je me rappelle très bien, j'ai vécu la période 2002, le colloque de Johannesburg, où on allait dire, pour 2010, c'est fini, il n'y aura plus de biodiversité qui partira. Je fais l'ouverture du colloque en 2010, qui dit, écoutez, on a raté. Et je vois l'optimisme humain, c'est pas grave, on remet à 2020. Et on va réussir quand? La dernière semaine de 2019? Non, ça s'accélère comme jamais. Il y a eu pas mal de rapports récents au muséum. On a montré un effondrement de 30% des oiseaux communs, pas les choses rares, en 12 ans. Un effondrement de tout ce qui vole en insectes en Allemagne et puis en France sur 27 ans. Et les effondrements également d'espèces marines, c'est aussi vrai sur les continents qu'en mer. Donc aujourd'hui, sans vergogne, on continue à massacrer allègrement entre 52 et 97% des girafes sur 30 ans. De qui se moque-t-on?
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres? Et quelles sont-elles? Et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion par rapport aux responsables de ce réchauffement climatique?
Oui, il y a clairement des zones. Dans le dernier rapport de WWF, il montre que c'est l'Amérique latine sud-sud. Les grands champs transgéniques de soja, par exemple, l'arasement des forêts tropicales, bien sûr. Il faut savoir que dans les trois grands bassins mondiaux, que sont le bassin du Congo, en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud et les deux grandes îles de la Papouasie et de Bornéo en Asie, on a plus de la moitié des espèces vivantes. Donc chaque fois que ces écosystèmes-là s'effondrent, bien sûr, on perd beaucoup, beaucoup.
Madame Masson-Delmotte?
Oui, d'un point de vue du climat, la déforestation contribue aussi au rejet de gaz à effet de serre. On a des résultats qui viennent de sortir du Brésil qui sont très préoccupants, oui. Une déforestation qui est repartie à la hausse. Ce qu'on voit également, donc c'est, vous parliez des régions du monde, mais on peut parler aussi des personnes les plus exposées. Partout, ce sont les plus pauvres qui sont les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement. Et le lien entre action par rapport au changement climatique et développement, il est étroit. Développement au sens d'améliorer le bien-être de tous.
Ok, donc bonjour à tous les deux. Okay. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Gilles Boeuf. On a l'impression de notre côté, alors je sais que vous travaillez dessus, donc ce n'est pas forcément votre centime, mais que les enjeux climatiques, et notamment au travers des travaux du GIEC qui sont très médiatisés, sont plus mis en avant que les autres problématiques environnementales. Et du coup, est-ce que vous avez le sentiment d'une hiérarchisation entre les problèmes liés au climat et ceux liés à la perte de la biodiversité, par exemple?
C'est vrai qu'on en parle plus. Sur le vivant, aujourd'hui, le climat n'est pas la première perte de diversité biologique. C'est d'abord sur la destruction pure et simple de la nature, des écosystèmes, et la pollution. Je mets ça en première priorité. Le climat se surimpose là-dessus. En fait, le climat, on ne peut pas ne pas s'en préoccuper. Ce qu'a dit venir Valérie est tellement évident qu'il faut qu'on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que dans le contexte général, tout à l'heure, dans votre introduction, vous aviez un peu donné l'impression de dire que le climat était le principal responsable de l'effondrement du vivant. C'est pas vrai. La surpêche n'a rien à voir avec le climat qui change. Le glyphosate n'a rien à voir avec le climat qui change. La destruction pure et simple des forêts d'Asie du Sud-Est pour faire de l'huile de palme n'a rien à voir avec le climat. Mais les interrelations sont évidentes en permanence. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la carte de répartition biogéographique du vivant aujourd'hui est totalement liée au climat. En fait, c'est le climat qui a façonné en fait ce vivant depuis les origines de la vie. Et heureusement que le climat a changé. Il faut le dire aux gens. Le drame actuel, c'est qu'il change beaucoup trop vite.
Et du coup, on s'est demandé si cette entre guillemets surmédiatisation des enjeux climatiques, même si c'est très lié, vous venez de le dire, n'était pas due au fait que les gens peuvent commencer dès aujourd'hui à percevoir les conséquences d'un réchauffement climatique sur les sociétés et leur mode de vie. Et est-ce que vous pensez que les gens ne sont pas suffisamment conscients de l'importance du maintien de la biodiversité pour les humains? Et peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur les services rendus aux humains par les écosystèmes?
Ce qui est très clair, c'est que, bon, je vais te parler de façon très simpliste, ils ont la trouille, les gens, du changement climatique. On n'a pas du tout la trouille de la disparition des hippopotames, des girafes. Et là, je prends les emblématiques. Hein. Il y a un très joli papier sorti cet été d'un collègue qu'on connaît bien, c'est les Francourchins à Orsay, qui montre que même que les espèces qu'on adore, les espèces charismatiques, emblématiques, elles partent. Il reste 9% des tigres, il reste 8% des lions, les guépards s'en vont, en fait. Ce qui veut dire que là, bah, ça préoccupe un petit peu quand on parle de cela, mais imaginez le reste. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour tout le reste? Qu'est-ce qu'on connaît des nématodes du sol ou des micro-champignons? Et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas très compte. Simplement, pour ce qui est très évident et qu'il faut dire en permanence, c'est que ben, la première raison de la nécessité du maintien du vivant, ben, c'est qu'on ne bouffe que ça. Nous ne mangeons que du vivant.
Est-ce que ce n'est pas un problème?
Bien sûr, nous ne coopérons qu'avec le vivant. Ce qui veut dire aujourd'hui que si on continue comme ça, qu'on va garder les animaux domestiques avec nous, et bien demain, les seuls gros animaux qui restera, ce sera les vaches, et qui nous empoisonnent aussi d'ailleurs sur le changement climatique. Donc vous voyez que tout est lié. Il faut expliquer que les services rendus par les... Moi j'aime pas trop le terme de services rendus par les écosystèmes, ça voudrait faire croire que la Terre est à la disposition de l'humanité depuis le début. Il y a des ressources qu'il faut aller chercher. Et pourquoi est-ce que des événements qui se sont produits n'ont pas été très malheureux dans le passé? Parce qu'on était très peu nombreux. Le même tsunami, la même éruption volcanique en l'an 1000 faisait beaucoup moins de dégâts qu'aujourd'hui, puisqu'on est excessivement plus nombreux, bien évidemment. Donc pour nos concitoyens, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on ne peut pas se passer de ce vivant. C'est absolument indispensable. Alors, purification de l'eau, on en parle très souvent, régulation du climat aussi, parce que souvent on oublie que le climat affecte directement le vivant qui s'en va peut très bien aussi affecter le climat en retour, tout est lié. Et à ce niveau-là, puis il y a une question éthique évidente, hein. Pourquoi est-ce que nous on a le droit, effectivement, moi j'ai eu le droit au dauphin du Yangtze et ma petite fille n'a pas eu le droit au dauphin du Yangtze. On me dit on s'en fout, on le connaissait pas. C'est le premier d'une très longue liste.
Alors vous parlez des dauphins, il y a un chiffre très inquiétant. Entre 1970 et 2012, la population des animaux marins a baissé de 49%. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que si une espèce n'est pas totalement éteinte, elle peut toutefois se régénérer. La nature est quand même bien faite.
Tout dépend de ce qu'il reste. Ce qui est dramatique aujourd'hui, et quand on parle des bouts de chaîne, ce sont des espèces qui vivent longtemps, qu'on appelle longévives, et qui font très peu de bébés. Et là, c'est comme la pêche. Hein. Si vous prenez ces stocks-là comme des stocks de pêche, vous les effondrez rapidement. Et c'est le mélange de tout ça qui pose aujourd'hui des problèmes. Et des bonnes nouvelles aussi. Les cachalots sont bienvenus depuis le moratoire de 63. On a réussi à relancer des espèces dans certains écosystèmes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des réserves qu'on a faites pour les protéger, bah demain peuvent très bien faire que la réserve qui a été construite pour une espèce n'a même plus l'espèce qui est là. Elle aura migré vers le nord, l'hémisphère nord, et vers le sud, dans l'hémisphère sud.
Madame Masson-Delmotte, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, moi c'était pour insister sur le fait que dans le rapport sur 1,5 degré, qui est inscrit fortement dans le contexte du développement durable et de toutes ses dimensions, on regarde les implications croisées climat et biodiversité d'une manière beaucoup plus approfondie qu'avant. On montre que, par exemple, contenir le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés, c'est des différences énormes en termes de perte d'habitat pour les écosystèmes terrestres. Et donc, ça limite fortement le risque d'extinction et de dégradation d'écosystèmes, aussi bien pour les insectes, les vertébrés ou les plantes. En mer, c'est vraiment frappant l'augmentation des vagues de chaleur marine. Elle n'est pas du tout linéaire avec le niveau de réchauffement moyen. Et donc on s'attend à 1,5 degré, donc entre 2030 et 2050, à une forte dégradation d'une grande partie des récifs de coraux tropicaux, 70 à 90%, et quasiment tous à 2 degrés. Et on montre aussi que certaines actions par rapport au changement climatique, elles peuvent être très bénéfiques pour conserver la biodiversité, tout ce qui porte sur la restauration des écosystèmes dégradés, qui sont des puits de carbone. Par contre, il y a aussi des options qui sont particulièrement risquées. Le fait, par exemple, d'imaginer qu'à l'avenir, on résoudra le problème en extrayant le CO2 de l'atmosphère avec des techniques type utilisation à grande échelle de l'énergie de la biomasse avec captage et stockage.
C'est ce que préconise le rapport du GIEC.
C'est pas le GIEC, il est neutre, il préconise rien. Il évalue la littérature scientifique et il dit dans les scénarios, voilà ce qui est pris en compte.
Il formule des observations.
Non, il analyse des bases de données de scénarios qui sont dans la littérature scientifique, qui sont en libre accès, et il les décrit. Et ensuite, sur les éléments présents dans ces scénarios pour stabiliser le climat, il analyse aussi les effets croisés avec les autres dimensions du développement durable. Donc typiquement sur le déploiement à grande échelle de captage et stockage de l'énergie de la biomasse. Dans ce cas-là, on montre clairement des risques d'accaparement de terres, de perte de biodiversité par la pression sur l'utilisation des forêts tropicales en premier lieu, ou des tourbières. Et de sécurité alimentaire. Voilà, on le montre très clairement.
Il y a eu du papier récemment sur les forêts tropicales qui montre qu'à l'état actuel, elles sont soit neutres. Elles sont souvent neutres, en fait. Alors que si on va vers un morcellement de plus en plus important, elles vont tomber. Elles ne seront pas plus capables de jouer leur rôle de puits, en fait. Elles vont devenir dans un système d'émetteurs.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie de l'interview. On enchaîne maintenant avec notre fameuse pause engagée. Et on revient tout de suite, c'est le début de la pause engagée. Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Étienne Coubard, qui travaille et qui est militant à Alternatiba. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors Étienne, tu es diplômé de l'Institut de formation aux initiatives des développements et tu es membre d'Alternatiba. Alternatiba, c'est quoi ? C'est un mouvement qui est né en 2013 à Bayonne. Et aujourd'hui, si on a envie de résumer un petit peu les slogans d'Alternatiba, changer le système, pas le climat. Qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, ce slogan, parce qu'on dans nos propositions d'alternative, chaque proposition, type par exemple avoir des plans de mobilité doux, donc utiliser, promouvoir le vélo plutôt que la voiture, changer de fournisseur d'accès, fournisseur d'énergie, donc passer à un fournisseur d'énergie vert, ou d'autres solutions comme la réhabilitation des bâtiments pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Donc toutes ces solutions là vont de pair avec un changement global de système qui doit plus être un système qui est basé sur la surconsommation, puisque la sobriété est aussi nécessaire pour qu'on arrive à lutter contre le dérèglement climatique. Et pour ça, les solutions, elles doivent venir à la fois d'en haut, donc des pouvoirs publics, mais aussi par la mobilisation citoyenne. Mais pour cela, il faut qu'on change notre conception, faut qu'on change notre modèle qui est basé sur la surconsommation et la consommation.
Alors c'est intéressant d'ailleurs, puisque je vous rappelle que nous ferons une émission prochainement cette année sur la thématique de la croissance infinie et de la décroissance en face. Alors je crois savoir que Alternatiba est né après la création d'un tour. Ça s'appelle le Tour Alternatiba. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors le Tour Alternatiba, c'est un tour qui avait déjà eu lieu en 2013 et qui a été reconduit en 2018, qui vise en fait c'est un tour à vélo en fait en triplette et quadriplette qui a sillonné la France au travers de 200 étapes sur 5600 km, et qui visait en fait à proposer des alternatives au niveau local sur le dérèglement climatique. Donc pour faire le lien entre les citoyens et les différents acteurs qui proposent des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique.
Mais pour revenir à ce que tu disais Étienne, par rapport aux moyens de transport, aux solutions, parce que j'en profite, le logo d'Alternatiba, c'est un quadripète, c'est ça ?
Une quadriplette, ouais.
Quadriplette.
Oui, en fait, c'est parce que le Tour Alternatiba, notamment, était un tour qui se faisait en triplette et quadriplette. Notamment, en fait, ce logo-là est un symbole, en fait, de la transition, du fait de changer nos modes de déplacement et de passer à des modes de déplacement doux. Mais c'est un symbole en fait de toutes les solutions de transition en fait.
Mais alors comment on fait quand on habite au fond de la campagne, qu'on doit aller au travail le matin, qu'on n'a pas de solution de vélo, qu'on n'a pas de solution de transport aussi à des horaires qui nous conviennent, qu'on n'a que la voiture pour se transporter sur notre lieu de travail. Comment on fait à ce moment-là qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ?
Alors pour les la transition est beaucoup plus compliquée en milieu rural ou en périphérie des grandes villes, notamment parce que c'est beaucoup plus habituel d'utiliser la voiture, en effet.
Ça concerne quand même beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne vivent pas dans les villes en France. Alors, on peut même d'ailleurs habiter dans une ville, mais au sein de l'agglomération autour, et là, avoir des moyens de transport qui sont souvent bien développés par les communautés d'agglo, mais aussi parfois à des horaires qui conviennent pas forcément tout le temps, quand il faut emmener les enfants à l'école ou quand il faut aller sur le travail. Donc, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là ?
Bien sûr, donc en fait, justement, c'est que ça représente justement une grande partie de la population. Et donc pour ça, les solutions ne peuvent pas venir. C'est là, c'est un exemple justement des solutions qui ne peuvent pas venir de ces personnes, puisque les solutions seraient par exemple d'utiliser une voiture qui fonctionne à l'énergie électrique. Mais est-ce que du coup ça a du sens véritablement pour ces personnes, puisque ça veut dire qu'il faudrait qu'elles rachètent, qu'on rééquipe.
C'est pas forcément une question de sens, c'est une question de coût. C'est pas forcément les voitures accessibles.
Et donc justement, ce que je veux dire, c'est que les solutions ne doivent pas venir de ces personnes-là, mais doivent passer par une fiscalité qui est type, par exemple, ce qui est proposé pour la taxe carbone, qui doit servir à justement à la fois rénover, donc les, enfin, faire de la faciliter l'achat de ces véhicules, mais aussi d'améliorer nos solutions de transport en commun périphériques, et également de développer tout ce qui est transport ferroviaire. Et donc ces solutions-là, elles ne peuvent pas venir des personnes qui habitent en milieu rural ou en périphérie, mais doivent venir du coup plus des pouvoirs publics. L'idée, c'est pas que les taxes soient payées par les contribuables comme on le fait, comme c'est proposé dans la taxe carbone, mais que ce soit les pollueurs qui payent, que ce soit du coup les entreprises qui produisent des énergéticiens, que ce soit aussi les transporteurs, les pollueurs.
Est-ce que vous amenez les grands groupes, pourquoi pas des grands groupes industriels, qui sont pas forcément, on le sait, on l'a vu pendant cette émission, qui sont pas forcément tous concernés par la défense du climat et par la cause climatique, mais est-ce que vous appelez, par exemple, à ce que certaines banques, à ce que certains groupes, à ce que certaines grosses entreprises viennent vous voir, toquent à votre porte et aient envie de travailler avec vous ?
Alors en fait, la particularité, c'est qu'Alternativa travaille véritablement au niveau local, puisque d'après le rapport du GIEC, pas celui qui est sorti là, mais celui qui était sorti il y a quelques années, il y avait 50 à 70% des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique qui se passaient au niveau local. Donc, ce que je disais, par des plans de mobilité douce, donc promouvoir le vélo, des moyens de transport en commun, aussi la rénovation des bâtiments pour avoir une meilleure efficacité énergétique, le changement de banque, l'utilisation de monnaie locale, la consommation d'alimentation locale, tous ces éléments-là. Et donc, en fait, Alternativa est vraiment au niveau local. Donc, on ne travaille pas véritablement avec les entreprises, avec des grosses entreprises, mais plus on met en relation les citoyens avec des acteurs associatifs, des collectifs et qui sont du coup locaux, avec les municipalités et les intercommunalités. Notamment, il y a les plans climat qui doivent être votés d'ici à la fin de l'année 2019. Et donc, on s'est introduit pour proposer des solutions pour que les engagements des différentes municipalités en France, donc dans les, si je m'amuse, il y a à peu près 50 groupes locaux d'Alternativa, peut-être plus, parce qu'avec le tour Alternativa, il y a eu pas mal de mouvements par rapport à ça, donc je n'ai pas les derniers chiffres. Mais c'était qu'on s'introduise dans ces plans climat, par exemple à Paris. En ce moment, donc, le plan a été voté en avril ou mai, et donc là il y a un comité de suivi citoyen qui est en train de se mettre en place pour vérifier que les engagements qui ont été pris au travers de ces plans climat soient véritablement réalisés et en même temps proposés aussi à la municipalité de faire en sorte que ces engagements puissent être véritablement effectués.
C'est quoi le prochain projet d'Alternativa ?
Le prochain projet Alternativa, donc là on est sur la campagne qui s'appelle Alternative Territoriale et qui vise en fait justement à renforcer les plans climat avec des comités de suivi citoyen, donc ce que je disais tout à l'heure, et donc ça c'est vraiment le gros projet. Après du coup nous on est toujours dans une phase de mobilisation, de lien avec les acteurs, et donc tout ça, ça reste nos enjeux. Donc l'enjeu c'est vraiment de mobiliser un maximum de personnes et de faire en sorte que pour Alternativa au niveau local, il y ait véritablement des décisions, des engagements et qui soit véritablement réalisé, qui soit compatible avec une transition en dessous des 1,5 degré de changement climatique.
Donc, si l'auditeur ou l'auditrice est intéressé, pourquoi pas pour vous rejoindre, il ou elle peut vous contacter ?
Oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter on est à la fois sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, il y a un site internet aussi qui est vous allez le trouver, c'est alternativa.eu. Et sinon, on est aussi dans toutes les marches pour le climat, on est présent depuis très longtemps, et notamment depuis les marches qui ont débuté au moment du 8 septembre.
Merci beaucoup, Étienne Coubert. Je rappelle que tu es militant chez Alternatiba. On vous invite, bien sûr, à vous rendre sur les réseaux sociaux et sur Internet pour en savoir un peu plus sur cette structure qui s'engage tous les jours. Merci beaucoup, Étienne.
Merci.
Et on se retrouve maintenant tout de suite pour la deuxième partie de cette interview avec Valérie Masson-Delmotte et Gilles Boeuf.
Alors nous avons décidé de consacrer cette deuxième partie de l'émission aux perspectives politiques qui peuvent se dégager des constats que nous venons de voir dans la première partie. À tous les deux, à partir de vos expériences personnelles, comment est-ce que vous percevez dans votre rôle en tant que scientifique dans le champ politique ?
Moi je vois mon rôle comme un rôle de passeur de science, de faire en sorte que cette mine d'or de connaissances scientifiques qui sont là pour anticiper sur les risques associés à l'évolution du climat et sur les solutions pour y faire face, parce que c'est un aspect important. Il y a un nombre énorme de solutions qui permettent de construire un développement juste, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre et en s'adaptant à un climat qui change, que ce soit partagé à tous les niveaux. Donc des actions en direction en particulier des villes, des collectivités territoriales, des élus au niveau national, des gouvernements. Des actions aussi au niveau du monde de l'éducation, parce que je pense que c'est la clé. C'est-à-dire que ces pistes de réflexion, cette manière de voir le monde et les leviers pour agir, on les partage le plus vite possible avec tous les jeunes partout.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les politiques vous écoutent, Gilles Boeuf ?
Quelquefois, mais largement insuffisamment. Vous savez, on est dans un monde de fake news, dont certains politiques sont passés maîtres d'ailleurs. Ils l'utilisent à très grande échelle. On a créé une revue qui s'appelle The Conversation en France, où 2000 scientifiques français contribuent chaque fois qu'il sort quelque chose de débile sur les circuits divers et variés. On intervient pour refaire un état de l'art sur la question. On ne connaît pas tout. Mais je suis entièrement Valérie. Ce qu'on connaît déjà peut nous aider effectivement à construire un monde complètement différent. Le monde politique, en fait, vous savez, le plus gros défaut, c'est qu'ils sont élus pour quelques temps très courts sur une surface très petite. Et depuis le début de l'émission, ce que Valérie, c'est évident. On travaille sur des choses qui affectent l'ensemble du globe terrestre, qui affectent donc l'ensemble de l'humanité. Deuxième chose, vous savez, c'est Groucho Marx qui disait « Mais pourquoi j'irais faire quelque chose pour mes descendants et n'ont jamais rien fait pour moi ?» C'est un peu aujourd'hui ce qui sort du monde politique. Impréparation culturelle aussi. Hein. Il y a très peu de gens qui sont formés à ces questions-là aujourd'hui aux manettes politiques. Il y a des pays où ça existe, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc ça, mis bout à bout, fait que on est sympa, on nous aime bien. Et surtout, dire une chose importante, nous ne sommes pas là que pour emmerder les gens. On me dit souvent ça, vous inquiétez les gens, ce n'est pas possible, vous intervenez partout. Ce n'est pas notre but du tout, au contraire. On est là pour, non pas désespérer, mais donner de l'espoir. Et pour ça, ce qui est très clair, c'est qu'il faut faire réagir. On parle des jeunes et de l'éducation, Valérie a 1000% raison là-dessus. Réagir. Einstein disait, vous savez, je pense que Luther King avait dit à peu près la même chose. On ne peut pas aujourd'hui, le monde n'est pas, les méchants et les stupides en fait, ils existent. Ce qu'il ne faut pas, c'est que nous, gens dits normaux, nous les laissions faire, en fait. Et qu'on arrête de laisser ces gens-là de préparer un monde insoutenable. Donc il y a une vraie réaction générale dans laquelle les scientifiques ont un rôle important. Mais je ne voudrais pas un monde demain uniquement de scientifiques. Hein.
Ah, je vais rebondir dessus, parce qu'en fait, la politique au sens noble, la vie de la cité, ce n'est pas que les élus, ce n'est pas que les politiques, c'est l'ensemble des citoyens. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu un changement qui a été imposé par le haut, comme ça, découplé des citoyens. Il faut faire émerger... Des projets politiques, de la base en fait. Il faut arriver à ça, à construire des forces politiques avec des gens qui s'engagent pour protéger la biodiversité, pour protéger l'environnement, pour agir par rapport au changement climatique. Ça viendra jamais d'en haut et ça sert à rien de l'attendre. Et moi, ce qui me frappe avec le rapport sur 1,5 degré, ce qui me frappe vraiment, ça m'était jamais arrivé, c'est le nombre de gens que je croise dans des contextes différents, des entreprises, des collectivités, dans la rue, dans le métro, et des gens qui me disent merci d'avoir remis ça sur la table, merci d'obliger justement le monde politique à repenser à cette action sur le long terme qui est nécessaire et qui ont tendance à oublier tout le temps.
Est-ce que les gens qui vous disent ça, ou en tout cas la société civile en général, est-ce que vous ne recevez pas de temps en temps des critiques par rapport au statut du GIEC, qui est une instance donc intergouvernementale et qui du coup, dans l'esprit collectif, peut paraître manquer d'objectivité et être soumise à des dynamiques qui dépassent des constats réels et des préconisations radicales.
Le fonctionnement même du GIEC, il est très mal compris. Le fait que les auteurs, en fait, on a des nominations qui viennent de tous les pays, plus des organisations observatrices, les grands programmes de recherche, etc., les ONG, Donc on a en fait ce pool de nominations, on choisit les auteurs sur la base de leur expertise scientifique, sur la base de leur publication, et en recherchant des équilibres, hein, bien sûr, et un renouvellement. Et ensuite, ils rédigent leur rapport complètement librement. Mais ils passent par un filtre de relecture critique par les pairs, la communauté scientifique, et par des experts nommés par les gouvernements. Et ce qui s'impose, c'est les faits scientifiques. Quand ils sont solides, quand ils sont robustes, ils s'imposent à tous, quel que soit l'agenda politique de tel ou tel pays. L'approbation du rapport spécial sur 1,5 degré en Corée du Sud début octobre, ça a été 100 heures. Ça a été vraiment compliqué. Des suggestions pour reformuler mieux, mais aussi tellement d'attentes, en particulier des pays en développement, d'avoir des précisions sur chez eux ce que ça veut dire un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud, concrètement pour les sécheresses, pour plein d'autres aspects. Donc c'était une attente de ressortir des chapitres complets, plus de détails dans le résumé pour décideurs, et puis une bataille avec un grand pays dont l'économie dépend intégralement des exportations d'énergie fossile. Une bataille terrible, en fait. Hein. Ils ont essayé de prendre en otage l'approbation complète du rapport, toute référence à l'accord de Paris.
Donc, est-ce qu'il y a un décalage entre le rapport final et...
La science, elle est solide et elle s'impose.
Ça a tenu.
Mais oui, quel que soit le positionnement du pays. Et dans le résumé pour décideurs qu'on a proposé le dimanche soir, vraiment le travail des auteurs du rapport, et le résumé approuvé, on a rajouté des détails, on n'a rien perdu, on a tout gardé, parce que la science, elle est solide et elle s'impose.
D'accord. Et du coup, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous préconisez en dehors peut-être du rapport du GIEC comme décision politique ?
Comment on fait pour ne plus fonctionner en silo ? Comment on fait pour que on pense l'environnement dans l'agriculture et pas de manière séparée ou opposée ? Comment on fait pour mieux consulter les citoyens ? Parce que ce qui est frappant, c'est chaque fois qu'il y a des assemblées citoyennes, il y a une ambition beaucoup plus grande que celle des politiques. Les politiques, ils sont frileux, ils ne savent pas faire le changement. Ils ne savent pas, ils ne sont pas armés pour ça. Mais quand on met, comme en Irlande, une assemblée citoyenne et qu'on leur demande comment faire de notre pays un leader sur comment le changement climatique, avec des gens tirés au sort pour représenter l'ensemble de la société et toute sa diversité, il y a une volonté d'agir. Et en particulier parce que la voix de la jeunesse, l'attention portée au futur, il est bien plus grand parmi les citoyens que parmi les politiques qui, eux, sont préoccupés souvent, comme le disait Gilles, des urgences de court terme. Donc moi, vraiment, ce que je recommande, c'est des processus délibératifs beaucoup plus inclusifs qui donnent une place importante à la jeunesse dans ces enjeux, parce que 1,5 degré, on y sera entre 2030 et 2050. Voilà, c'est demain. Et donc, il faut s'y préparer et il faut donner une attention particulière aux préoccupations de la jeunesse.
Et du coup, je rebondis là-dessus. Monsieur Boeuf, vous avez co-signé dans le Monde le 3 septembre dernier une tribune qui a fait beaucoup de bruit, qui était intitulée « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, l'appel de 200 personnalités pour sauver la planète ». Du coup, c'est une tribune qui rappelle les constats alarmants et qui exhorte à sauver ce qui peut encore l'être et qui propose le choix du politique, je cite, « loin des lobbies et des mesures potentiellement impopulaires qui en résulteront ». Du coup, double question, plus précisément, qu'est-ce qui peut ou doit, selon vous, être sauvé ? Et vous parlez de mesures impopulaires. Impopulaire pour qui ? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
C'est là qu'on revient à la question qu'évoquait Valérie tout à l'heure sur l'éducation. On fait des conférences tous les deux, on a 1000 personnes. Ils viennent nous écouter, ils sont ravis. Ils sont déjà d'accord avec nous avant qu'on commence. Comment on touche des gens qui n'ouvrent jamais les pages environnementales d'un grand journal ? Qui vont jamais visiter un musée ou qui vont jamais écouter une conférence ? C'est une vraie question.
Ben, on va dans les centres commerciaux. Nous, on le fait. On y va parfois le week-end, et on est là
c'est très
pour croiser les gens qu'on
c'est
croiserait
petit.
Pas.
C'est bien de le faire, hein, c'est bien de le faire. Mais voilà, c'est quelque chose parmi d'autres. Moi, je vais dans des tas de petits bleds paumés, de rendez-vous verts, et on discute. Bon, maintenant, l'impact mondial, il est quand même pas très fort. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, je donne un exemple précis, le jour où Nicolas Hulot s'est levé à l'Assemblée nationale le 20 mai dernier, qu'il a dit « Indignez-vous, on aurait dû être 1 million dans la rue ». Il n'y a eu personne. Il a toujours été seul jusqu'au bout. Et ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Pour moi, c'est très clair, c'est une question d'économie. Ça veut dire qu'il faut qu'on stoppe cette économie destructrice et débile qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Moi, je pense que c'est jouable. Et tout ce que dit Valérie, au niveau des petits aspects coup d'ébris, c'est aussi important. Mais ce qu'on a vu, vous ne dites pas dans l'annonce, c'est qu'on ne fera plus confiance à aucun gouvernement qui ne mettra pas en priorité ces questions-là par rapport à tout le reste. Si on rate ça, on ne réussira rien d'autre. Et bien sûr qu'il faut la présence de jeunes youtubeurs avec nous pour faire ça aussi, bien sûr.
Alors, il y a quand même eu des marches pour le climat qui ont été organisées, mais ce n'est pas assez. Les personnes ne sont pas assez. Valérie Masson-Delmotte.
Sur le point précédent, il y a aussi besoin de fournir de l'information. Parce que beaucoup de gens, en fait, dans leur choix quotidien, ils seraient prêts à faire des actions, si on leur permet de voir en quoi ce qu'ils mangent, par exemple, contribue à la destruction de la biodiversité, ou en quoi, quelles sont les solutions, les façons alternatives, rendre visible ce qui est invisible. La destruction de la biodiversité, on ne la voit pas dans nos gestes quotidiens, pas nécessairement. Les émissions de gaz à effet de serre, on ne les voit pas. Et donc, il y a aussi besoin d'outils d'appui, d'aide à la prise de décision. Encore une fois, faisons confiance à l'intelligence des gens, mais ne cachons pas ce qui cause les problèmes. Rendons-le le plus visible possible. Des applis, on scanne le code barre d'un produit et on voit les conséquences sur la biodiversité. On l'a pas. Il y a des trucs sur la nutrition, mais il n'y a pas ça. Il faut des outils comme ça.
Oui,
il faut rendre visible.
Yuka, on va essayer de les inviter. Alors, vous parlez de la société civile, c'est intéressant. Les Nouvelles Ondes, nous étions samedi 24 novembre aux Champs-Élysées. Nous avons interrogé des manifestants pacifiques.
Alors, donc, pour parler de l'enjeu climatique, effectivement, bon, c'est un beau sujet. Sincèrement, moi, je suis très pessimiste. La France veut jouer son rôle, c'est bien. Je pense pas que ça va résoudre tous les problèmes, sachant que derrière, il y a quand même des grosses puissances mondiales qui s'en foutent, y compris donc les États-Unis. La Chine essaye de faire un effort, mais de toute façon, j'y crois pas, parce que ça sera irréversible, quoi qu'on puisse dire. Ça sera des petits points de... qui seront faits à droite, à gauche. Mais quand on voit le développement qui se passe au niveau de la population, on nous pousse sur la consommation, il n'y a rien, il n'y a pas de volonté. Donc, encore une fois, oui, on dit, bah non, faut pas taxer le kérosène. Bah pourquoi ? Parce que derrière, il y a une grosse multinationale qui peut pas se permettre de dépenser de l'argent là-dedans, et donc on taxe sur les plus faibles. Voilà, tout simplement. Donc l'enjeu climatique, j'y crois pas trop. Malgré tous les efforts et les petits efforts qui ont été faits, c'est pas suffisant.
Alors dans ce témoignage, on entend plusieurs défis. Tout d'abord celui de la démographie, il parle d'expansion démographique assez importante, il parle d'incitation à la consommation, il parle de l'importance des lobbies, il parle aussi du fait qu'il y a un défi qui est mondial et qui du coup nécessite une intervention au niveau global. Donc est-ce qu'avec tout ça, on peut considérer qu'il est difficile pour les décideurs politiques de prendre des décisions efficaces? Est-ce que l'État n'est pas impuissant?
La réponse est non. Et par exemple, le rapport spécial sur 1,5 degré, il montre les conditions de faisabilité d'une transformation majeure de la société, de sorte à construire une société zéro carbone, c'est-à-dire qu'on ne mette pas plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'on soit capable d'en enlever. Et on le regarde avec 6 dimensions de faisabilité, une dimension qui est géophysique, hein, donc ce n'est pas impossible de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré par rapport au fonctionnement du climat. Une dimension qui est environnementale dans les autres dimensions, une dimension qui est technologique, économique, socioculturelle, la notion d'acceptabilité en fait, hein. Et puis une dimension qui est institutionnelle, et on voit qu'en fait il y a plein de barrières partout. Il y a des choses qu'on peut déployer tout de suite, puis il y a des choses pour lesquelles il faut agir plus profondément, faire un effort d'innovation, de recherche, d'innovation sociale bien sûr, mais il y a un tas de choses qu'on peut faire dès maintenant. Et finalement, pour moi, le point qui ressort dans ce témoignage, et le point qui est exprimé parfois par certains acteurs, c'est finalement une forme de fatalisme. Et je crois que c'est le plus grand défi aujourd'hui. C'est surmonter ça. Surmonter l'idée que finalement on ne pourra jamais agir, qu'il est trop tard, que les autres, que tous les alibis pour ne pas agir. Et c'est ce fatalisme-là qui est le premier défi qu'il faut arriver à surmonter en montrant les solutions qui existent, qui marchent, qui permettent de construire des communautés qui fonctionnent bien, qui sont plus justes, avec moins d'inégalités, avec une attention particulière portée aux vulnérables dans toutes les prises de décision. Et on a des exemples de ça.
Alors une dernière question sur l'intervention de Nicolas Hulot sur l'émission politique. Il a dit qu'il était, je cite, « impossible de croître infiniment sur une planète finie ». Je voulais vous demander quel regard vous portiez sur les discours qui remettent en cause la croissance économique. Et une question un peu sous-jacente, en clair, est-ce qu'une croissance verte est possible? Peut-être Madame Masson-Delmotte d'abord.
Alors, le rapport du GIEC, il montre en fait qu'il y a plein de chemins possibles pour stabiliser le réchauffement climatique. Avec il y a des options qui agissent particulièrement sur la demande. La demande d'énergie, la demande de matières premières animales, de protéines animales, la viande, les produits laitiers, la demande de matériaux non renouvelables. Et puis, il y a des trajectoires où la demande augmente, où on consomme plus. Et plus on va vers ces trajectoires-là, plus en fait agir par rapport au changement climatique, ça demande d'agir sur l'offre des grandes transitions de système, mais ça demande aussi à l'avenir d'être capable d'extraire et de stocker du dioxyde de carbone avec tous les risques liés par exemple à l'exploitation à grande échelle de l'énergie, de la biomasse et du stockage des émissions associées. Et donc clairement le rapport il montre que si on agit sur la demande, c'est là où on maximise les synergies par rapport à la préservation de la biodiversité, par rapport à toutes les autres pressions sur l'environnement qu'on exerce. Et ça pose la question de nos modes de vie et nos choix de consommation.
Gilles Boeuf, quel est votre regard sur ce système de croissance qui est le nôtre ?
Je vous l'ai dit, moi, cette croissance-là, basta, c'est fini, hein, puisqu'on l'a fait sur la destruction, donc c'est pas possible. En plus, on l'a fait que pour quelques-uns. N'en tire des bénéfices que 0,01% de la population. Vous savez, ce chiffre qu'on clamait déjà au moment du rapport du Club de Rome, 20% des humains gèrent et consomment 80% des ressources. Ça n'a pas changé. Donc, ça veut dire que je suis absolument, totalement d'accord avec ce que vient de dire Valérie. Au niveau environnemental aujourd'hui, c'est ce que dit Edgar Morin, je suis un fils spirituel d'Edgar, quand il dit il nous faut une croissance humanitaire planétaire, qu'on n'a toujours pas en fait. Et ce qu'il disait l'autre jour, à Darwin, 40 000 jeunes à Darwin, hein, pour parler de ces histoires de climat et de biodiversité, qu'est-ce qu'il a dit? Si on continue à gouverner comme on le fait en ce moment, en laissant les trois quarts des gens de côté, ces gilets jaunes, je pense qu'ils sont dans la rue pour ça, qu'est-ce qui se passe? Le premier gourou qui passe, il gagne. Et qu'est-ce qui vient de se passer en Italie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Brésil? Et on n'est pas à l'abri de quelque chose comme ça également chez nous. Je termine sur un bouleversement que j'avais vécu, je ne sais pas, tu t'en souviens Valérie, en décembre 2015, ils sont un rapport des Nations Unies sur la vulnérabilité des femmes comparativement aux hommes face à des changements climatiques et autres. On a toujours beaucoup plus de femmes qui décèdent face à un tsunami, face à une éruption volcanique, face à une inondation, face à une sécheresse. Pourquoi ? L'éducation y est pour beaucoup. Puis aussi la mentalité des femmes qui sauvent aussi leur famille, ce que font pas les garçons.
L'égalité homme-femme, un enjeu qu'on n'oublie pas, puisqu'il y a eu également une manifestation samedi 24 novembre.
Si j'avais été là,
ouais,
j'y serais.
Ne l'oublions pas. Vous y étiez avec mes deux filles.
Vous y étiez.
Ah, j'étais pas là, mais j'aurais vraiment voulu. Il y avait des garçons.
Il y en avait plein.
Oui, c'est bien.
Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que cette histoire de justice sociale, elle est intimement liée à tous les aspects du changement climatique. Et je fais confiance aux mécanismes de la justice pour exercer aussi une pression sur ceux qui n'agissent pas assez.
Ohala.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui dans notre studio. Merci Madame Valérie Masson-Delmotte. Merci Gilles Boeuf d'être venu nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui dans notre émission. Merci.
C'est vrai que j'aime beaucoup cette dame. Hein. Elle est brillantissime.
On est ravis en tout cas de vous accueillir aujourd'hui. Merci également à Rémi Alberola et Maxime Verdun qui ont préparé cette émission. Merci à Lucas Rodriguez qui a bien voulu s'occuper de la technique aujourd'hui et de sa chronique pour briser la glace. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site Les Nouvelles Ondes avec La Péniche. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.